Évangile selon Matthieu, chapitre 25, et versets 14 à 30. Au nom de Jésus. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, regarde. » En voici 500 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai par conséquent celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit, « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or. « Regarde, en voici 200 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai par conséquent celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu des graines. » Alors j'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Regarde, voilà ce qui t'appartient. Son maître lui répondait, serviteur mauvais paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas répandu de graines. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec l'intérêt. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Et donnez-les à celui qui a 500 pièces. Car à tout homme qui a, l'on donnera davantage. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. Quant à ce serviteur, bon à rien, jetez-le dehors dans l'obscurité. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. Amen. Pour une personne qui n'a jamais lu les évangiles, il serait mal à l'aise en écoutant le contenu de ce texte, parce qu'on parle d'esclaves et de maître. Et surtout avec l'actualité de ces temps-ci, où nous entendons la vente des esclaves en Libye, par exemple, cela peut heurter la sensibilité de beaucoup de personnes qui découvrent pour la première fois la Bible. Dieu cautionne-t-il l'esclavagisme, les esclaves et les maîtres? On a du mal, par exemple, à accepter ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 5. Voilà ce qui est dit. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas, humblement, avec respect, d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. Et ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur comme des esclaves du Christ. Alors nous pouvons être écœurés de voir et de lire ces propos de Paul, qui dit aussi que nous sommes des esclaves du Christ. Mais en plus, c'est pas fini, si vous lisez bien ce verset de Paul, il demande même d'obéir avec un cœur sincère au maître. Alors c'est abusé. Comment pourrons-nous obéir avec un cœur sincère à un maître tout en étant esclave? Honnêtement, est-il possible pour un esclave d'obéir avec un cœur sincère à son maître? Je ne crois pas. Il le fera par obligation ou tout au moins par survie. Or, ce qui a été demandé, c'est une obéissance dans le sens d'une épouse qui obéit à son mari. Pas par contrainte, mais par amour. Mais c'est ce qui est annoncé ici dans notre texte pour ce matin. Il parle de relation entre un maître et son serviteur. Mais est-ce que ce texte parle de l'esclavagisme et d'un maître qui a une autorité intransigeante sur les serviteurs? Je ne crois pas. Si nous ne faisons pas attention, nous allons appauvrir le texte en le réduisant dans un type de rapport de chef et de subalterne. Mais afin de répondre à cette question, je vous invite encore à ouvrir vos Bibles dans Luc chapitre 7, un texte parallèle comme ce texte que nous venons de lire, Luc chapitre 7, versets 41 à 43. Luc chapitre 7, versets 41 à 43, au nom de Jésus. Et Jésus dit, deux hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le payer, il leur supprima leur dette à tous deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon lui répondit, je pense, c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as raison. Là, c'est la même chose. Parallèlement à ce que nous avons vu, mais le terme qui a été utilisé est prêteur ou créancier. Donc le maître ici, c'est un prêteur, un créancier, et le serviteur, c'est un débiteur, d'après le texte. Donc nous pouvons comprendre qu'il s'agit d'un type de rapport assez élevé, car le serviteur en question ici, ce n'est pas l'esclave qui n'a pas de liberté est considéré comme une bête ou une propriété du maître. Non, on est à côté du sens du texte si on le pense ainsi. Il s'agit de quelqu'un qui cherche un patron, qui pourrait prêter de l'argent afin de les faire fructifier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le patron à l'époque de Jésus, le type de rapport entre patronat et serviteur, le patron a pour devoir et responsabilité de nourrir toute la famille et de protéger la famille de cette personne qui fait fructifier ses affaires. Pourquoi? Parce que il contribue à l'enrichissement commun. Alors si le patron est prospère, tous les serviteurs le sont aussi. Revenons un peu plus loin à l'histoire de Jacob. Quand Jacob a dû s'enfuir, il a demandé secours à son oncle Laban. Et en retour de là, il a demandé sa protection. Et son oncle lui a dit, OK, d'accord, à condition que tu travailles pour moi. Ils avaient un contrat qu'en fonction du rendement de Laban, Jacob pouvait lui aussi sa part dans les bêtes qu'il a pris en charge. Et vous voyez, à la fin, Jacob était devenu plus riche même. Avec les astuces de Jacob, on sait très bien, il était trop malin. Là où je veux en venir, c'est que le titre de serviteur ici ne doit pas être compris comme esclave au sens péjoratif, mais plutôt dans le sens de débiteur, de créancier, et qui est sous la protection du maître. Par conséquent, nous ne devons pas avoir honte d'être appelés le serviteur de Jésus-Christ. Maintenant, avec cette vague qui se passe dans le monde, avec cette indignation et qui est normale, ce mot esclave devient dur à entendre. Mais il faut garder ce mot dans la Bible, même s'il y a d'autres traductions. J'ai pas honte de me dire je suis l'esclave de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ, car cela a la même signification de ce que Paul nommait de cohéritier, selon ce qui est dit. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu, qui nous permet de crier à Dieu, Abba, ô mon Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple, nous y aurons part avec le Christ. Amen. Nous formons une grande famille, c'est alors face à ce royaume de Dieu ici-bas, comment nous nous situons, nous? Allons-nous agir comme le serviteur qui avait enterré le talent de son maître? Si au moins il l'a mis à la banque, comme ce qui a été annoncé, le maître ne l'aurait pas blâmé. Mais l'acte qu'il avait fait ici, c'est du vol. Il a essayé de voler son maître. Ça ne lui appartient pas. Et on voit que lui, il ne se sentait pas parmi la grande famille du maître. Il se sentait exclu à l'extérieur. Il se considérait comme exploité injustement. En d'autres mots, il avait un esprit de mercenariat. Mais il ne se sentait pas du tout concerné de la perte ni de la prospérité de son maître. C'est aussi la grande question qui se pose aujourd'hui. Comment te considères-tu face à ton Dieu? Quel sentiment as-tu vis-à-vis de ton Seigneur? Et là, je parle ici de ton Seigneur, mais pas de ton frère, ton Seigneur. Et ce que je vous dis là est la suite de ma prédication du dimanche dernier, quand j'avais dit que l'Église n'a pas de code standard d'éthique à vous donner à suivre, mais c'est en fonction de votre relation avec Dieu que vous saurez ce que vous allez faire. Et c'est là le déclic, le point capital de la vie chrétienne. Quel type de rapport ai-je avec Dieu? C'est une question vraiment qui touche l'existentiel. Quel rapport ai-je avec mon Dieu? Même si nous sommes une communauté, on va tous au culte ensemble, chacun a une façon de se comporter devant son Dieu. Si je lis ma Bible à la maison, si je vais au culte, si je participe à la vie de la communauté, que ce soit sur le plan matériel ou financier, que j'aide un ami en difficulté ou autre chose, pourquoi je le fais? Et vous allez peut-être me répondre en bon protestant, parce que Dieu m'a sauvé et que je suis reconnaissant envers lui. Ah, c'est beau d'entendre cela. C'est en partie vrai, mais il y a un petit bémol. Figurez-vous, notre Dieu ne cherche pas de la reconnaissance. Dieu ne cherche pas de la gratitude à notre façon humaine. Pourquoi je dis cela? Parce que nous, par exemple, soyons terre à terre, si jamais notre enfant ne nous rend pas un geste de reconnaissance pour toutes les années que nos parents ont pris sous sa responsabilité, ils seront choqués, blessés. Et donc, quelque part, nous attendons tout de même un retour, n'est-ce pas? Sans le dire. Mais Dieu ne cherche pas du retour de la manivelle. Ce qu'il souhaiterait, et je ne sais même pas si ce mot que j'utilise, souhait, est juste, mais c'est le seul mot que j'ai trouvé, enfin il faut mettre un mot, c'est que nous ayons un sentiment d'appartenance à une grande famille. Que nous ayons le sentiment que nous faisons partie de la famille de Dieu. Et si je sens que j'appartiens à sa famille, sa cause est la mienne, n'est-ce pas? Si je fais partie de la famille de Dieu, la cause de Dieu est ma cause. On ne devrait même pas sensibiliser les gens à s'investir dans l'expansion du royaume de Dieu s'ils se sentent enfants et héritiers. Mais s'ils se comportent en mercenaires, alors là, il faut toujours le motiver. Allez, allez! Es-tu mercenaire ou héritier? Avoir cet esprit d'appartenance est capital dans notre relation avec Dieu. Et c'est ce que les autres serviteurs l'ont fait dans ce texte. Ils ont pris à cœur la cause de leur maître et ils ont mis toute leur énergie pour faire fructifier les affaires de son maître, qui n'est autre que la sienne aussi. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est pour cette raison, par exemple, chers frères et sœurs en Christ, que moi, et là, je me mets dans une position délicate, mais je vais quand même le dire, moi, personnellement, je n'enseigne pas aux gens l'obligation de verser la dîme, car à ce moment-là, ça devient ce sentiment de reconnaissance, un retour. Non, ce n'est pas l'acte en lui-même mon problème. C'est le sentiment que nous avons au moment où nous le faisons. Quel est le sentiment que tu as au moment où tu dois verser pendant l'offrande? On va dire l'offrande. Est-ce une participation au royaume de Dieu? Est-ce une reconnaissance? C'est bien de donner, c'est bien de faire la dîme. Mais si tu as ce sentiment que ce royaume de Dieu-là, il te l'a confié à toi et à moi, alors nous ferons tout de notre mieux pour que ce royaume de Dieu, ce royaume de notre Père soit prospère, parce que cela m'appartient à moi aussi. C'est là le point de départ. Si tu te sens impliqué parce que c'est le royaume de ton Père, alors tu ne feras pas n'importe quoi. À ce moment-là, la dîme que tu fais est appréciable aux yeux de Dieu, parce que tu te sens aimé et tu fais partie de la famille. Ce n'est pas le fait de verser une somme après un calcul de 10% qui va rendre la bénédiction de Dieu. Non, ne faisons pas de comptabilité avec le Seigneur. Car si nous faisons cela, nous agissons par calcul, mais plus par amour. Et parfois, si ça dépasse les 10%, tu vas dire, mais tu as déjà eu ta part, Seigneur, ça suffit. Hein. Les 10% sont largement dépassés. Mais s'il te dit encore, mais j'en ai encore besoin, mon fils, tu vas encore faire des calculs. Ou peut-être tu dis, oui, mais je vais enlever ça pour la prochaine fois, pour l'autre mois. Es-tu mercenaire ou héritier? Je crois qu'aucun enfant va tout faire pour capoter les richesses de son père. Et si cet enfant se sent vraiment membre à part entière de la famille, il va être aussi prêt à tout faire pour que ça, cela marche. Alors, pour terminer, la formule finale que je peux résumer tout cela est la suivante. Tout ce que le Père possède est mien, et tout ce que je possède l'appartient.